Alors, chers amis auditeurs, ce soir, je voudrais un peu dans ce que le pape François nous a magnifiquement montré dans la lettre Patris Cordae, qu'il nous arrive d'avoir du mal à laisser le gouvernail de notre vie à Dieu, mais lorsque nous laissons le gouvernail de notre vie à Dieu, lui voit toujours plus loin et plus haut. Et il me semble que les époux Luigi et Maria, Beltrame Quattrocchi, et leurs enfants, et en particulier la plus jeune, Henrietta, Henriette, qui est déjà déclarée vénérable, elle est décédée il y a 9 ans, que cette famille a vraiment laissé à Dieu le gouvernail de leur vie en traversant beaucoup d'épreuves, mais en gardant la sérénité dans un énorme amour mutuel. Alors, qui sont-ils? D'abord, ils sont le premier couple non martyr de l'histoire de l'Église à être béatifié comme couple. Ils ont été béatifiés avant les époux Martin, qui eux sont déjà canonisés. Les époux Luigi et Maria Beltrame, pour l'instant, sont béatifiés. Et Saint Jean-Paul II a fixé la date de leur fête au 25 novembre, qui est la date anniversaire de leur mariage. Alors, qui sont-ils? Ils ont mené une vie très ordinaire. Et Maria Luisa est née avec le nom de famille Corsini à Florence. Elle est fille unique d'un couple, le papa est officier. C'est un homme colérique. La maman a un caractère vif et dominateur. Et dès son plus jeune âge, Maria, qui est une enfant au tempérament timide et hypersensible, prend l'habitude, quand elle met la table, de déposer une petite feuille d'olivier sous la serviette de ses parents pour les faire réfléchir à cette branche d'olivier qui est le signe de la paix. Elle sait qu'elle est très aimée de ses parents. Et un jour, elle affirme à son père, tu vois, papa, je ne t'aurais pas épousée comme l'a fait maman, parce que tu as trop mauvais caractère. Mais elle est vraiment aimée. Quand elle a 9 ans, les parents s'installent à Rome. On est en 1893. Elle va fréquenter le lycée, puis une école de commerce. Elle va apprendre le français et l'anglais et le piano, où elle est très douée. Et elle acquiert une très vaste culture littéraire. Luigi, de son côté, de 4 ans l'aîné, est né à l'autre bout de l'Italie, en Sicile. Et il est le benjamin de 3 enfants. Il est né Beltrame, mais il va ajouter le nom de Quattrocchi parce que son oncle, qui lui porte le nom de Quattrocchi, ne pouvant pas avoir d'enfant, a demandé à pouvoir adopter Luigi. Et en 1891, quand l'enfant a 11 ans, ils partent s'installer à Rome. Donc l'oncle, la tante, devenus les parents adoptifs, avec le petit Luigi. Il y fait des études de droit et il commence une belle carrière d'avocat. Et lui aussi fréquente les grands classiques de la littérature, lui aussi aime la musique, le théâtre, les voyages. Et les deux familles, les Corsini et les Quattrocchi, vont développer une belle amitié. Et c'est comme cela que Maria et Luigi vont se connaître. À la fin de l'année 1904, Luigi a 24 ans, il tombe malade très gravement et Maria en ressent une souffrance profonde et elle lui envoie une image de Notre-Dame de Pompéi. Et en fait, cet épisode révèle aux deux jeunes la profondeur de leur amour mutuel. Le 25 novembre 1905, la petite Maria a 21 ans et Luigi a 24 ans. Ils se marient à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Et ils vont aller habiter pendant de longues années de mariage dans la maison familiale des Corsini. Ils y seront à l'étroit du fait qu'il y a les parents de Maria et les grands-parents de Maria. Mais Luigi a toujours fait preuve d'une grande déférence envers ses beaux-parents. Chaque soir, les époux se retrouvent avec joie, se détendent en famille et chacun s'intéresse au travail de l'autre. Luigi doit souvent s'éloigner de Rome pour des raisons professionnelles et retourner en Sicile, mais les époux échangent de très beaux courriers. Je lis quelques extraits de ce courrier entre les époux, déjà du temps de leur fiançailles. Et c'est très beau parce qu'il y a cette liberté d'être eux-mêmes. Par exemple, Maria écrit « Je prends tes mains et je les pose sur mon visage, sur mon cœur, sur ma bouche et je les embrasse un million de fois. » Ou encore « Je t'aime, Luigi, je t'adore et c'est tout. » Non, ce n'est pas tout. Pour compléter la phrase, je dois ajouter « Et tu m'aimes. » Cette fois, c'est tout. Ou encore, c'est vraiment très beau, que c'est tellement vrai. Luigi écrit à Maria, « J'ai mis un baiser chaud comme mon amour sur ma lettre. La pensée que tu le recevras avec tes lèvres adorées me donne un immense moment de bonheur. » Et Maria lui répond, « J'ai mis là mon baiser le plus ardent pour toi. » Ou encore, mon âme a besoin de ton âme pour vivre, écrit Maria. Et Luigi lui répond, seul ton amour me donne la force de vivre. Et puis, un peu plus tard, mon bel amour, je te remercie, écrit Luigi. Mon bel amour, je te remercie infiniment pour le bien que tu fais à mon âme. Je voudrais que tu puisses boire tout entière cette âme par le baiser ardent que je te mets ici sur cette lettre. Et encore, j'ai toujours tellement soif de tes paroles, elles font tant de bien à mon âme. C'est très beau. Alors, la famille s'agrandit. La première grossesse de Maria leur procure un bonheur indicible. Et la joie est à son comble à la naissance, le 15 octobre 1906, d'un petit Philippe, Filippo. La jeune maman a 22 ans et elle va expérimenter, dans la maternité, le besoin de s'oublier. Une de ses filles racontera, « Maman était habituée à aller au théâtre, à aller au concert. Elle a accepté de renoncer et de réduire à presque rien la lecture et à zéro les spectacles et les concerts, par amour pour ses enfants. » En septembre 1907, Maria est à nouveau enceinte. Et là, elle a un sentiment de désarroi et de solitude qui l'envahit, d'autant plus que de nouveau, Luigi est en Sicile. Elle lui écrit. Entendons bien, parce que les saints, ce ne sont pas ceux qui, à la force du poignet, se sont raidis et ont fait face d'une façon qui ne serait pas juste, non pas du tout. Ils ont appris à ne plus compter sur eux et à laisser le gouvernail de leur vie à Dieu. Mais c'est un apprentissage. Et donc elle écrit à Luigi, « Qui me donnera la force de penser à deux enfants, de supporter la fatigue physique de la grossesse et de tout le reste ? Crois bien, Luigi, je suis vraiment désespérée. Mais grâce à la prière, la sérénité revient dans l'âme de Maria et progressivement, avec sérénité puis joie, elle accepte cette seconde grossesse. Et le 9 mars 1908, donc pas tout à fait 2 ans après le petit Philippe, naît une petite fille, Stéphanie, Stéphania. Marie a 26 ans et Luigi a 30 ans. Le 27 novembre 1909, 4 ans après, 2 ans après, un troisième enfant, César, Césarino, voit le jour après un accouchement assez laborieux. Et 4 ans après, en septembre 1913, Maria conçoit un quatrième enfant. À partir du 4e mois, elle a des violentes hémorragies. Le placenta est mal positionné et le diagnostic tombe, placenta previa. Le verdict est sans appel. La vie de la maman et de l'enfant sont en danger. Le couple consulte un professeur de gynécologie de grande renommée, le professeur Regnoli, qui ne voit aucune autre solution que l'avortement pour sauver la maman. Maria et Luigi sont atterrés. Ils regardent le crucifix accroché au mur chez le gynécologue. Ils puisent en Jésus la force et opposent un non catégorique à l'avortement. Le professeur, interdit et désemparé, s'adresse à Luigi. « Mais vous ne vous rendez pas compte, maître. Vous vous préparez à rester veuf avec 3 enfants à charge. » Mais Luigi et Maria refusent. Ils ne peuvent se résoudre à condamner l'enfant que Maria porte en elle. La réponse est inchangée. Le non reste non. Je fais une petite parenthèse. Visiblement, Luigi et Maria vivent sous ce qu'on appelle le régime des dons du Saint-Esprit. C'est très beau, ils ne vivent pas à la force du poignet, mais la grâce de la confirmation est à l'œuvre et ils sont conduits par les dons, le don de force, le don de conseil, le don de sagesse. Et la réponse, il n'y a pas de calcul. C'est immédiat. Ils ne sont pas en train de peser le pour et le contre. Un petit peu comme Maximilien Marie Kolb. Un père de famille est condamné au camp de concentration d'Auschwitz à mourir de faim et de soif. Et sans aucune hésitation, sans rien peser, Maximilien s'avance. Je demande à prendre la place de ce père de famille. Eh bien, c'est la même chose. Maria et Luigi, avec elle, veut prendre la place de la petite, du petit bébé qui est en train de grandir. mais une angoisse terrible tombe sur la famille. Et la seule source de lumière leur vient d'une confiance illimitée en Dieu et en la très sainte Vierge Marie. La communion des époux se fait plus forte et 4 mois se passent ainsi. Marie garde le lit et Luigi s'occupe des enfants. Et c'est à partir de ce moment que la vie spirituelle de Luigi s'approfondit. Il est tellement bouleversé par la situation et par le danger que sa femme court qu'il trouve du réconfort dans la prière. Chaque matin, quand il conduit les enfants à l'école, il s'arrête pour prier. Et la messe quotidienne et la confession deviennent le cœur de sa vie. Enfin, le lundi saint, le 6 avril 1914, début de la guerre, à la fin du 8e mois, devant l'état de faiblesse de la maman, le gynécologue intervient pour l'accouchement qui a lieu par voie naturelle. Une petite fille vient au monde. Cette petite, Enriqueta Henriette, celle que le 30 août 2021, le pape François a déclarée vénérable en reconnaissant l'héroïcité de ses vertus. Malgré les pronostics pessimistes, la maman et l'enfant sont sauvés et cette petite a vu le jour grâce à la confiance totale que ses parents ont mise en Dieu. Et cette naissance devient une étape fondamentale dans le cheminement spirituel du couple et de toute la famille. Maria a 30 ans et Luigi a 34 ans. Alors maintenant, nous allons un peu regarder, après avoir vu la vie, la famille qui s'agrandit, nous allons regarder comment, au milieu de ces naissances, entre ces naissances et après ces naissances, quel a été l'apostolat de Maria et de Luigi. Maria a une immense soif de connaître et rien ne diminue sa soif. Ils ont les moyens, parce que Luigi est un bon avocat, de demander à du personnel de les aider dans les tâches ménagères. Bien que, au fil des années, elle va laisser certaines tâches à du personnel domestique et elle peut écrire des articles, écrire des livres. Pour elle, c'est vraiment l'apostolat de la plume. Elle s'adresse surtout aux familles, aux mamans. Elle s'engage aussi, par exemple, dans le catéchisme auprès des enfants. Pendant toute la Première Guerre mondiale, elle s'engage volontaire comme infirmière de la Croix-Rouge pour porter secours aux blessés. Et en 1924, elle est appelée à collaborer à l'Action catholique féminine. Je passe à Luigi. Il est un homme discret. Il a une certaine distinction naturelle et il est connu de tous par une très grande amabilité. Il est très intéressé par l'apostolat direct et il s'engage dans des activités paroissiales, nationales, notamment dans le scoutisme. Et jusqu'à l'âge de 47 ans, il va devenir le conseiller général de l'association Scout catholique italienne. Pour les scouts, il sacrifie toutes les heures de détente et de repos. Chaque fois qu'ils le peuvent, aussi, Maria et Luigi participent comme brancardiers au pèlerinage des malades à Lorette ou à Lourdes. Alors, en politique, les époux Beltrame Quattrocchi suivent dans un premier temps le fascisme, parce qu'ils y ont saisi, en apparence, des idéaux moraux, religieux, culturels, sociaux. Mais rapidement, ils vont devenir clairvoyants vis-à-vis du régime et ils désapprouvent purement et simplement le régime au moment des lois raciales. Ils se dépensent alors sans compter pour sauver les Juifs. Le couple va cacher des Juifs dans leur appartement et d'autres personnes poursuivies par le régime fasciste au risque de leur vie et ils habitent dans le quartier général allemand nazi. Quand Luigi avait 29 ans, en 1909, il avait été reçu premier au concours national des avocats du Trésor public. Et il va exercer de grandes responsabilités dans différents ministères. En 1943, donc on est en pleine guerre mondiale, il est pressenti par le président du Conseil des ministres pour devenir avocat général de l'État. Mais voilà, il va y avoir une campagne sournoise menée contre lui par des membres du même barreau des avocats, aux tendances anticléricales. Et alors que Luigi était la personnalité éminente du barreau de l'État, il est mis à l'écart et Luigi est profondément blessé par cette injustice qu'il vient de subir. Mais il n'en montrera rien parce qu'une fois de plus, il regarde vers Jésus, injustement condamné à mort. Luigi a connu la marginalisation professionnelle à cause de la cohérence de sa vie avec sa foi. En 48, donc après la guerre, on lui offre de présenter sa candidature pour siéger au Sénat. Mais en accord avec Maria, il décline cette offre parce qu'il ne partage pas les orientations de ceux il lui propose ce poste. Luigi, à cause de ses charges, va recevoir beaucoup de titres honorifiques et de décorations, mais jamais il n'en parle. Un de ses fils écrira « Papa ne se surestimait pas par rapport aux autres, mais il ne se sous-estimait pas non plus. Avec ceux qui étaient loin de la foi, il avait un tact particulier pour attirer leur amitié. Et ceux qui étaient loin de la morale, il évitait de les importuner. Luigi écrit, nous ne devons pas cacher nos sentiments religieux. Nous devons les professer publiquement. Mais principalement et avant tout par nos actes, par notre être, par nos œuvres, par l'honnêteté et l'esprit chrétien qui imprègnent notre conduite, par le désintéressement, par l'amour pour le prochain, par la charité vécue, mise en pratique. Un ami de Luigi, un croyant et franc-maçon, ému devant le cercueil de son ami Luigi, avouera le jour de l'enterrement à un de ses fils. Tu vois, pendant toutes ces années où nous avons travaillé ensemble, ton père ne m'a jamais cassé les pieds avec des sermons. Mais je veux te dire que c'est par sa vie que j'ai découvert Dieu et que j'ai commencé à aimer l'Évangile. Prie pour moi. L'engagement principal de Maria et de Luigi reste leur propre famille. La prière familiale tient une grande place et c'est Luigi qui en est l'âme. Encore une fois, un de ses fils dira « Dès notre enfance, nous étions frappés par l'attitude particulière de recueillement de papa à l'église durant les visites au Saint-Sacrement. C'était toujours papa qui, après le dîner, commençait la récitation du chapelet. Et d'après mes souvenirs, papa et maman communiaient tous les jours et ils nous ont transmis cet amour. Je me souviens aussi combien papa aimait servir la messe, en particulier avec les nombreux prêtres qui venaient à la maison. En 1922, les deux fils, Philippe et César, manifestent le désir de se donner un jour à Dieu. Ils sont encore très jeunes. Et 2 ans plus tard, le 6 novembre, Philippe, à l'âge de 18 ans, entre au séminaire. Et l'année suivante, César, qui a 17 ans, entre à l'abbaye bénédictine de Saint-Paul-Orléans, où il deviendra le père Paolino. Et là, c'est très beau, parce que pour un papa, fier de ses deux fils, ce départ l'ébranle. Le départ de la maison des deux garçons produisit un vide énorme, relate Stéphania, leur fille. Celui qui s'en ressentit le plus, jusqu'à en avoir physiquement mal, ce fut papa. Mais bientôt, il va dépasser cette souffrance affective. Et Maria écrira à ses fils, pensez à vous et pour moi à la messe comme un refuge lumineux de mon âme et je bénis le Seigneur. Au bout de la première année de philosophie, Philippe doit quitter le séminaire pour des problèmes de santé et une année plus tard, il va rejoindre son frère, il va lui aussi devenir bénédictin et il reçoit le nom de père Tarcisio. Alors, le Seigneur se plaît dans cette famille et en 1927, quand Stéphanie a 19 ans, elle aussi entre au couvent des Bénédictines à Milan et elle reçoit le nom de sœur Cécile. Enrica rapporte « Le départ de ma sœur fit dans le cœur de papa une déchirure extrêmement violente. J'ai encore dans les yeux, à plus de 70 ans de distance, les pleurs silencieux et pudiques de papa agenouillé, tandis que de l'autre côté de la grille se déroulait la cérémonie de prise d'habit de sa fille. Il se passe quelque chose en 1920, 2 ans et 4 ans avant le départ des fils. En 1920, le célèbre père Matteo Crowley Bouveille qui est un prêtre titulaire, un saint, un apôtre du cœur de Jésus, intronise le Sacré-Cœur de Jésus dans la famille Beltrame. Et la petite Enriqueta a 6 ans. Elle est bouleversée par la beauté du cœur de Jésus, si bien que son désir de communier est si fort qu'à l'âge de 6 ans, elle va recevoir pour la première fois Jésus. Quand Maria réfléchira, elle s'est souvent demandé, écrit-elle elle-même, si une vie orientée de cette façon vers Dieu doit nécessairement conduire à des vocations religieuses. Elle ouvre l'évangile et elle lit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et donc elle répond « Eh bien non, il ne faut pas nécessairement entrer dans la vocation religieuse, seulement si le Seigneur appelle. Mais si Dieu fait à des parents ce cadeau royal et gratuit, il nous reste ce besoin de remercier. Seigneur, je ne suis pas digne. Alors, Maria a attribué beaucoup d'importance aux soins de sa maison, dans les plus petits détails, et Maria et Luigi ont instauré pour la multitude d'hôtes qui passent chez eux, une règle de vie. Pas de rancœur, pas de ressentiment, aucune médisance. Et dans les conversations, on s'en tiendra au fait, on n'exprime pas de jugement sur les personnes. C'est bien ce que le pape François ne cesse de nous demander en nous parlant du cancer qu'est véritablement le radotage et les commérages les uns sur le dos des autres. Alors, il est important de noter encore que en août 1918, j'aurais dû le dire, donc 2 ans avant cette intronisation du Sacré-Cœur dans la famille. En août 1918, Luigi a 38 ans, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. Luigi passe par une période très difficile et un de ses fils commente « Notre père a traversé un moment de crise spirituelle aiguë liée à l'ascèse spirituelle entamée par maman. Maman était spirituellement accompagnée par le père Matteo. Et papa s'est découragé et il a fini par avoir peur de Dieu comme on a peur d'un rival qui pourrait attirer trop haut son épouse et d'une certaine manière la lui dérober. Mais Maria a aidé Luigi à dépasser cet obstacle en lui montrant que lui aussi était attiré par l'Esprit Saint et que cet amour que les deux ont pour Dieu ne peut pas diminuer le sacrement de mariage et leur amour conjugal. C'est très important et c'est très beau de relater ces combats spirituels dans le couple. À partir de 1928, les Beltrame acquièrent enfin un terrain sur lequel ils vont construire une maison. Elle a 44 ans, il en a 48. Et là, ils vont installer une petite chapelle et ils auront le privilège tout à fait exceptionnel de la présence réelle de Jésus. Peut-être qu'il est bon de dire aussi qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Par exemple, Maria n'est pas très perméable aux influences étrangères et débattre avec elle pour la faire changer d'avis n'est pas facile. Et dans ces moments-là, Luigi est nerveux et Maria agressive. Mais les dissensions ne durent pas parce que très rapidement, on se demande pardon et on puise la force dans la vie spirituelle. Le tabac aussi est un motif de mésentente. Luigi a été un grand fumeur dès sa jeunesse. Et à la naissance du premier enfant, il va s'arrêter. Mais quand les enfants ont pris leur envol, il se remet à fumer malgré l'avis contraire de Maria. Luigi va laisser à Maria le soin de la gestion de leurs biens. Et ils vont le mettre au service des pauvres. Tous les deux vont entrer dans le tiers ordre de Saint François, qu'on appelle aussi l'ordre franciscain séculier, et continuer de mener une vie profondément spirituelle. Après le départ de leurs enfants, sauf Marietta qui reste avec eux, ils avaient envisagé un moment de se retirer dans un monastère. Mais ils comprennent que non, leur vocation est d'être époux jusqu'au bout. En 41, la santé de Louis est ébranlée par deux crises cardiaques. Et 10 ans plus tard, à l'âge de 71 ans, il met à jour son testament et il insiste pour que, après 27 ans où ça n'était jamais plus arrivé, toute la famille se réunisse. Et 5 jours plus tard, il a une crise cardiaque et dans la nuit du 9 novembre, à l'âge de 71 ans, dans les bras de Maria, il s'éteint. Et Maria a 67 ans. Elle écrira plus tard combien leur amour a toujours été un amour aspirant au même but et se soutenant mutuellement. Au cours de presque un demi-siècle de vie commune, je l'affirme devant Dieu, nous n'avons jamais connu un moment d'ennui ou de fatigue. Maria va abandonner ses activités extérieures, elle va seulement encore écrire et s'occuper de sa famille. En 62, le père Paolino, c'est-à-dire César, entre chez les trappistes. Et dans l'été 1965, Maria passe une des belles vacances. Elle a 81 ans, mais le 26 août, elle est emportée par une crise cardiaque. Entre les mains de Henriqueta, la Benjamine, restée près de ses parents, qui a consacré sa vie à Jésus comme laïque, dans une vie de grand dévouement, toute simple. Toute simple, et Henrica est morte le 16 juin 2012 à 98 ans. Et depuis le 30 août 2021, elle est déjà déclarée vénérable. Et en la priant, nous obtiendrons le miracle nécessaire pour que elle aussi soit béatifiée. C'est tellement beau de voir des saints époux à qui Dieu fait le cadeau d'enfants sains. Voilà, je vous dis au mois prochain et prions Luigi et Maria et Enriqueta et nous aussi continuons dans la confiance.